La musique.
Caravana de maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec Laurent, notre ami Laurent, et notre invité aujourd'hui, Eric M.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu nous présenter la pièce que nous venons d'écouter ?
Cette pièce s'appelle Soulage, elle a été composée en 2010 et elle a été la première fois qu'elle a été éditée, c'est sur un album en duo avec Natacha Muslera, le duo s'appelle Cartouche. Et là il vient de ressortir dans une compilation qui est inclue dans une monographie plutôt sur mon travail plastique qui sort en février. Voilà.
Ok.
Et alors, bon, Natacha Muslera, c'est une... C'est une chanteuse, donc là, ce qu'on vient d'entendre, si tu ne nous avais pas expliqué, je pense qu'on n'aurait sans doute peut-être pas reconnu spontanément le duo Eric M. et Natacha Muslera. Est-ce qu'on peut expliquer plus précisément, en fait, comment est-ce que ça a été produit ?
Alors, c'est une pièce pour... Initialement, je voulais travailler avec des cannes, enfin, des orgues à bouche. Et,
Parce que l'orgue à bouche, c'est aussi le mouse organ en... Aux États-Unis, c'est le nom de l'harmonica,
c'est comme ça qu'on
appelle, le blues harp, c'est un de ses surnoms, disons.
D'accord. Et l'idée, c'était de travailler sur des cannes, mais pour pouvoir être dans quelque chose, pour travailler sur la vibration et dans un rapport continu, il fallait être capable de pouvoir faire du souffle continu, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de Natacha non plus, et du coup, j'ai démonté... des éléments d'accordéon qui nous permet dans l'inspire et dans l'expire de générer du son. Donc c'est une pièce qu'on interprète tous les deux de temps en temps quand on joue ensemble avec Cartouche où on travaille sur ces temps, ces tensions et sur ces valeurs harmoniques des fréquences relativement hautes. Quoi.
Ça fait penser aussi au gagaku.
Exactement.
Une tradition japonaise savante où il y a comme ça des... Alors, je ne sais pas le nom exact des orgues à bouche, peut-être ça s'appelle d'une certaine façon, où il y a des fréquences aiguës comme ça qui sont tenues, des espèces de bourdons qui font des vibrations.
Ouais.
On a aussi ces sonorités-là.
Alors, j'aimerais te demander, comme à beaucoup de musiciens qui passent dans nos. Qui nous font l'amitié de venir par chez nous. Et alors, toi, c'est encore plus peut-être intriguant. Quelle est ta formation musicale ? Est-ce que comment on arrive aux platines, en gros ?
Moi, je suis complètement autodidacte, donc j'ai absolument aucune formation, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans le domaine des arts plastiques. Le rapport avec la musique, j'ai fait du rock pendant une dizaine d'années dans différentes formations, donc c'était plutôt du rock bruitiste ou du rock industriel. Et parallèlement à ça... J'ai une pratique, que ce soit de dessin et de collage, enfin de dessin au départ et de collage qui est arrivé pendant l'adolescence. Et puis j'ai transformé avec le temps, à un moment donné, avec pas mal de vidéos, enfin avec la VHS à l'époque. Et puis ça s'est transformé avec du Revox, de la cassette, des Walkman. Enfin ça a été commencé à être de la musique de collage qui s'est faite de manière complètement intuitive. Souvent pour pouvoir accompagner, en tout cas dans le fond, de fabriquer un certain type de matériaux qui étaient dans ces groupes-là, en n'ayant absolument aucune conscience de ce qu'était la musique concrète, enfin la musique savante en général, et en étant beaucoup plus focalisé sur des groupes américains ou anglais, voire allemands, enfin c'est toute cette scène-là qui était plus en influence. Donc avec le temps, j'ai commencé vraiment à travailler avec les platines à partir de 92, ça commençait à être là, 92, 93. Et au fur et à mesure, ça finit par prendre ça a pris le dessus.
Ouais.
Petit à petit, en fait, quand je me suis installé à Marseille, j'ai pu rencontrer Otomo Yoshide et Christian Marclay. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc, je ne les connaissais absolument pas les deux et qu'il y avait une pratique qui était évidemment identique. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de ce que j'étais en train de faire depuis quelques années.
C'est-à-dire les premiers contacts avec la musique improvisée, la scène expérimentale.
Déjà, ouais. Après, par rapport à la musique improvisée, moi j'étais pas mal, quand j'étais objecteur de conscience, j'avais affaire avec le festival jazz à Mulhouse. Donc j'ai fait voilà, qui faisait partie de l'AMC. Donc, moi, je suis vraiment originaire de cette région. Donc, j'ai entendu, j'ai vu beaucoup de choses, que ce soit autant au niveau de la danse des années 80, parce qu'il y avait un festival intéressant qui s'appelait Eurodance à l'époque. Et qu'au niveau
à Mulhouse,
ouais. Et puis en étant frontalier, il y a Bâle qui est à côté, il y a Freiburg en Allemagne. Oui. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on avait pu voir et qui commençaient à être poreux parce qu'il y avait toute cette scène-là. Sonic Youth l'a vachement apporté parce qu'ils citaient souvent leurs références qui avaient à voir directement avec la musique savante. Et donc ces choses-là, il y avait une porosité à l'intérieur de ça, mais en même temps, c'était pas du tout accessible. Enfin, en tout cas, à l'âge que j'avais, parce que j'étais dans d'autres préoccupations, ouais. Tout simplement. Mais ça s'est fait de manière complètement empirique jusqu'à rencontrer ces personnages-là et à rentrer là-dedans petit à petit de manière finalement toujours assez empirique et assez intuitive. Et c'est à travers les rencontres, enfin en l'espace de 5 ans, finalement j'ai fait un tour du cadran assez rapide. Et qui était au niveau de l'instrumentarium, c'était pendant en gros de 95 à 2000, c'était beaucoup avec des platines vinyles. Puis il y a eu la formation avec Voicecrack et Gunther Müller, où là j'avais abandonné complètement les platines, j'ai rentré dans de l'électronique pure, ouais. Enfin dans le détournement. Et la musique avec les CD qui était déjà présent sur le premier album et sur les premières démos à l'époque, qui étaient vendues à Bimbo Tower quand ils y vendaient encore ça dans un couloir. Et c'est. Le support CD a pris beaucoup plus d'importance dans mon travail depuis des années parce qu'il fait partie du processus dans la composition. Et en live, je l'utilise relativement souvent. Enfin, actuellement, c'est plutôt ça.
Là, on avait parlé, lorsqu'on avait reçu Frédéric Blondy pour le festival Crack, effectivement, de la programmation dont tu faisais partie. Et donc, je rappelle pour nos auditeurs, c'était un festival à l'église Saint-Méry à l'automne dernier. Et effectivement, c'était à ce moment-là, c'était cette pratique-là que.
Ouais, c'est une pratique. Le fait de jouer, évidemment, les supports changent complètement la musique qui est due à la lutherie, c'est-à-dire les instruments utilisés, la platine CD de DJ. Moi, j'ai toujours travaillé avec des objets qui sont vraiment sortis, qui sont fabriqués pour l'industrie du plaisir, j'allais dire même, et qui ont à voir, en tout cas, avec le. Soit pour des écoutes domestiques ou c'est des instruments qui ont à voir avec la musique, je dirais pas traditionnelle, mais qui a à voir avec la musique de trance en général, que ce soit la platine vinyle telle que je les ai utilisées ou les lecteurs CD. Ça a toujours été quelque chose qui avait à voir directement avec le corps, en tout cas sur quelque chose qui était rythmique. Et ce qui m'intéressait là-dedans, dans le détournement le détournement entre guillemets, parce qu'il y a eu plusieurs phases, parce que il y a le travail qui a à voir avec le support, avec le son enregistré sur le matériau, mais il y a eu toutes les phases où c'était la lutherie même, c'est-à-dire la platine en elle-même, génératrice, comme en étant un microphone, etc. Il y a toutes ces expérimentations-là. Et,
ce que fait un peu Arnaud Rivière aussi, qu'on avait reçu.
C'est plutôt ce que fait Martin Tétrault depuis très très longtemps. Qui a travaillé, qui a un rapport, qui a complètement décharné en fait sa machine avec le temps. Donc il y a eu des phases comme ça fait partie vraiment de certaines périodes, c'est-à-dire que la musique improvisée libre à la fin des années 90, début des années 2000, est passée dans quelque chose qui était complètement réductionniste. Il y avait aussi un rapport avec le laptop qui était très présent, avec le click and cut qui amenait aussi ces formes-là. Et avec Poirzet, c'était venant la formation, c'était quand même Voicecrack qu'il a fallu éclater de l'intérieur de telle manière à ce qu'il rentre dans d'autres schémas de pensée au niveau de dans la musique, dans l'instant. Avec une telle source, avec autant de matériaux électroniques, c'est extrêmement rapide de pouvoir être dans une accumulation, dans une masse de sons organisés ou désorganisés, mais de produire énormément de sons. Et les problématiques dans lesquelles on était à cette époque-là, c'était effectivement d'être dans la réduction. Donc on est allé de telle manière à pouvoir travailler, finalement, le dernier album qu'on a fait avec Phil Milton, c'était de pouvoir laisser de la place, finalement, à une voix, à un chanteur, avec un dispositif pareil.
D'accord. Mais si je me souviens bien, au Festival du Mans en 97, il était question qu'il y ait, avec vous, Chris Cutler.
Ouais.
Et il n'est pas venu ?
Non, il était bloqué dans le train avec Fred Frith, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'était ça. Il y avait Chris. Normalement, c'était Peter Hollinger qui aurait dû venir. Il n'a pas pu le faire. Et puis finalement, c'était. Ils ont été bloqués dans le train et c'est devenu un trio avec Montera et Donnedda.
Voilà.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais. Et donc, enfin, c'est étrange. Hein. C'est vrai que moi, j'aurais adoré voir avec ce truc-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je me suis dit, ah, avec un Chris Cutler. Enfin, c'est pas n'importe quel batteur en plus. Mm-hmm. Hein. Et en fait, c'était vachement cohérent comme ça. C'était vachement bien.
Tu veux dire le trio ?
Ouais.
Mais je crois que c'est le premier concert qu'on a fait.
Je crois.
Ouais, c'est Jean-Marc qui nous avait invités, Michel et moi. Ouais. Et on a continué après avec Michel. On a sorti un album en duo l'année dernière. Et on se produit assez rarement quand même, mais c'était quelque chose d'important parce que Michel, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté et ouvert. En tout cas philosophiquement, sur cette pratique, la musique improvisée libre, où l'initiation, d'une certaine manière, est passée vraiment par lui. Mmh. Et en tout cas, il y a eu une ouverture, il y a eu des mots, il y a une compréhension d'un certain nombre de situations qui ont été transmises dans cette période-là, c'est-à-dire 97-98, quoi.
On parle aussi, alors quand je lis des articles ou des livres te concernant, on parle pas mal de Tom Cora aussi. Est-ce que tu pourrais parler de ça?
Tom Cora, on s'est rencontrés en fait en 95 avec le Festival Mimi avec l'ami, donc à Marseille. Vous avez monté La Guerre des Platines, donc c'était cette rencontre avec différents... il y avait Moto Moyoshide et Christian Marclay. Et en même temps, ils avaient invité des DJ de la ville qui travaillent soit avec, à l'époque, soit avec IAM ou avec... En fait, ils voulaient être dans quelque chose, dans une espèce de porosité comme ça, entre ce type de musique qui était plutôt bruitiste et quelque chose qui avait plus à voir avec le hip-hop par rapport à leur lutherie. Mmh. Moi, je me suis retrouvé là-dedans un petit peu par hasard. Et parce que je venais de quitter Kids the Thrill, et donc on m'a proposé de rentrer dans cette histoire. Et puis un an après, Ferdinand nous avait proposé de jouer au Festival Mimi. Et là-dedans, il y a Tom Cora qui venait de s'installer à Marseille avec Catherine Genio. Et la rencontre s'est faite comme ça. Donc ça a été une amitié assez courte finalement, parce qu'il est décédé relativement vite. Il est décédé, je crois, en 97, je crois, ou 98, je ne me souviens plus bien. Et le duo avec Catherine est né juste dans la même période. Donc avec Tom, j'ai joué une ou deux fois. Et en duo, on a joué une seule fois. Première partie de Blurt, dans une salle qu'on avait avec les membres de Kids of Thrill, qui s'appelait la MJC Mirabeau, dans le 15e arrondissement de Marseille. Ouais. On a fait passer énormément de groupes qui étaient plutôt dans la scène... rock indépendant, expérimental, et puis pas mal de musique impro à cette époque-là.
Ah oui. Donc tu es toujours basé à Marseille actuellement ?
Moi, je vis toujours à Marseille, à la Belle de Mai. Ouais.
D'accord. Et il y a autour d'un certain nombre de structures et de production, de diffusion, etc.
À Marseille, il y a différents. Enfin, j'ai développé
là,
tout
un. On parlait de la friche La Belle de Mai, on parlait de Mimi, enfin de l'ami plutôt avec Mimi.
Mimi, j'y étais. Enfin, la friche, c'était quelque chose qui était pour moi fondateur à un moment donné, c'est-à-dire quand j'avais 25-26 ans. Et puis après, j'étais en tournée tout le temps, j'avais pas vraiment de relation avec avec la ville. Et à partir de 2007, j'ai voulu me réinscrire un peu plus dans la ville. Donc j'ai mon atelier maintenant à la Friche Belle de Mai. Et la structure avec qui je travaille, qui s'occupe du développement et pas de faire tourner, parce que j'ai pas de tourneur, mais qui s'occupe en fait de toute la partie administrative. Avec Jérôme Mathéo qui s'occupe de Radio Grenouille, entre autres, auquel je participe de temps en temps. On est basé à la Belle de Mai. Quoi.
D'accord. Est-ce qu'on écoute peut-être le duo avec Michel Donnedda, du coup? On en a parlé juste avant. C'est... Donc on vient d'écouter à nouveau le duo Cartouche, mais cette fois-ci, on reconnaît sans doute beaucoup plus la voix de Natacha Muslera et la platine, l'électronique, les CD, je ne sais pas comment il faut dire, d'Eric M. Alors, c'était aussi l'occasion de reparler de ton histoire avec la voix, puisque tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait cette rencontre avec Filminton, il y a Catherine Jogneau aussi avec le... laquelle tu travailles, puisqu'il y a un disque aussi, je crois, qui va sortir.
Oui, il y a un double qui sort là, en février, qui est intéressant. Pour, on n'a jamais fait de disque ensemble, à part un titre sur une compilation de Dragibus à l'époque, où j'utilisais des sons de Dragibus et on avait fabriqué une comptine comme ça. Et là, ça sort sur Microtone, qui est un label russe. Okay. Et c'est un double CD. Le premier, c'est un live droit, c'est-à-dire qui n'est absolument pas monté, de ce qu'on faisait en 2000. C'est un concert au Festival Taclos à Bâle en 2000. Uh-huh. Et le deuxième, c'est des pièces qui sont issues d'improvisation, mais qui sont remaniées de deux concerts, un à Besançon et un à Montpellier en 2010.
En 2010.
Voilà. D'accord. Et c'est deux, enfin il y a 10 ans évidemment entre les deux. Et en gros, avec Catherine, on a commencé en 97 et on a terminé, on a cessé de jouer ensemble vers 2001 à peu près, ou 2000. Moi, j'étais beaucoup plus parti dans la danse, enfin travail, j'ai fait beaucoup de musique, de spectacle à ce moment-là. Et on a repris ensemble à partir de 2007, Et finalement, en 2007, on était vraiment sous des formes qui étaient complètement ouvertes. Alors qu'en 97, Catherine avait encore un désir, enfin, à ce moment-là, elle avait un désir de remonter l'équivalent d'un groupe ou d'un orchestre comme elle avait pu le faire avant. Et donc, je rejouais un peu ce rôle-là. Donc, on avait des choses qui ressemblaient, on était dans de l'improvisation et puis quelque chose qui avait à voir avec le cabaret. Enfin, on était dans un antre comme ça.
Ça veut dire que les deux CD là, qui vont sortir sont très différents, correspondent à ces deux périodes ou...
Ils correspondent à ces deux périodes. Après, ils sont assez cohérents les uns avec les autres, mais malgré tout, on sent vraiment cette grosse différence. Et même au niveau des textes, ce qui est dit, la façon dont Catherine place sa voix, et puis l'imaginaire qu'il y a là-dedans, et dans une continuité, quoi.
D'accord. Et donc, bon, bah, ça sort donc ces jours-ci sur
Microtone. Ouais.
Voilà. Alors, est-ce que ça a du sens, effectivement, de se demander si tu as un rapport particulier avec la voix, que ce soit donc avec Natasha Muslera, Catherine Jeuniot, Phil Minton et d'autres, peut-être, que parce que on a peut-être certains clichés de musique électronique ou quoi, très, très froid, alors que la voix, au contraire, c'est quelque chose qui peut plus peut-être apporter une intimité, quelque chose de charnel ou quoi. Alors, est-ce que c'est ce contraste-là ou au contraire, je sais pas, je te laisse.
Moi, ce qui m'interrogeait à ce moment-là, c'est en tout cas pouvoir faire de la musique électronique avec une voix, il y a une contrainte qui est mécanique, qui est due à l'organe, c'est-à-dire la voix en soi. Qui peut se fatiguer de manière extrêmement rapide. Mais comme avec un instrumentiste, avec un violoncelliste, ça peut être exactement la même chose. Enfin, y a quelque chose de mécanique, alors que au niveau de la platine, enfin en tout cas au niveau de l'électronique en soi, on appuie sur des boutons, on fait des variations, etc. Mais l'engagement n'est pas du tout au même endroit. Donc ces contraintes-là...
C'est l'énergie du nucléaire.
Ouais. Et ce qui m'a toujours intéressé avec la voix, c'est justement ces endroits de fragilité qu'il y avait et qui finissaient par s'inverser. C'est-à-dire que moi-même, j'étais en fragilité dans un moment d'équilibre par rapport dans le rapport avec la voix de telle manière à ce qu'elle puisse exister, complètement se développer. Et pas forcément dans un rapport d'accompagnement, mais de matériaux et de construction à l'intérieur de ça. Donc faire des entrées, des sorties, enfin, je trouve que c'est un élément, l'élément vocal, c'est quelque chose qui est extrêmement... complexe et il y a quelque chose qui a à voir aussi avec la musique sur support, c'est qu'il y a une quantité de choses qui peuvent être dites, chantées, enfin on peut passer réellement du bruit à l'anecdote, c'est quelque chose qui est assez proche finalement de ma pratique et faire passer un certain nombre d'informations, des émotions, en tout cas des images et un certain nombre de choses à l'intérieur de ça. Alors qu'avec des instrumentistes, c'est beaucoup. J'ai énormément de mal, par exemple, à jouer avec des guitaristes. C'est quelque chose qui m'est compliqué.
D'accord.
Avec des batteurs aussi ou les percussionnistes, c'est quelque chose qui m'est difficile. J'avais travaillé avec Drouet, qui avait une pratique qui était particulière, avec qui je pouvais vraiment travailler. Je travaille depuis quelques années avec FM & Night, mais qui a une pratique. En tout cas, les instruments qu'il utilise, ils sont d'une pauvreté absolument incroyable, même au niveau rythmique. Et donc on est plus dans quelque chose qui a à voir avec la performance, avec FM, plutôt que lors du concert, parce que travailler à cet endroit-là, c'est quelque chose d'assez casse-gueule d'une certaine manière.
Mais là-dessus, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette question de la performance et de justement, parce que là, ça rejoint le corps, ça rejoint la danse, ça rejoint un certain nombre de choses. Mais je voulais revenir et insister sur la question de la fragilité dont tu parlais pour la voix et donc du rapport que ça pouvait induire chez toi à ta lutherie électronique. Parce que par exemple, il y a le documentaire, je sais pas comment il faut dire aussi, là, qui est sur le site Paris Like. Où le titre c'est Scory, Spiral Dregs, c'est ça.
Ouais, ouais.
Donc et là-dessus justement tu parles aussi de ça, c'est-à-dire de pousser les machines dans quelque part dans leurs limites, dans leurs failles, là où elles sont plus faites pour aller et je pense à ça quand tu me parles de la fragilité de la voix et je pense que c'est là où peut-être les démarches peuvent se rejoindre. Est-ce que tu pourrais expliquer cette histoire de scorie je pense que ça peut avoir du sens.
Bon, le rapport avec la scorie, c'est le rebut, la scorie, l'artefact, enfin tous ces éléments-là sont complètement intégrés au travail en soi. C'est-à-dire que c'est en improvisation, en solo, je suis dans un rattrapage en permanence d'erreurs. C'est-à-dire que Les matériaux que j'utilise sont les mêmes depuis un certain nombre d'années. Ils s'effacent avec le temps. Enfin, en tout cas, amènent de plus en plus une masse, un bruit de fond, en fait, qui est dû au support lui-même. Donc, s'il y avait une lecture dans le temps entre 92 et maintenant, on prend tous les concerts et on les analyse, finalement, il y a une montée de bruit blanc qui finit par apparaître. C'est-à-dire que c'est le matériau en soi qui apparaît. Donc, moi, quand je place les éléments, enfin, c'est-à-dire des disques avec je place la pointe sur le vinyle, je sais pas exactement où ça va tomber. Donc, c'est quelque chose qui a à voir avec cette. Pour moi, il y a quelque chose qui se rapproche avec une pratique du surf ou du skateboard. Mais... C'est-à-dire qu'il y a un élément qui arrive, mais on ne sait pas forcément sur quoi on va tomber, et c'est comment on le rattrape.
C'est la fragilité de l'instant aussi, quoi.
Mais en fait, c'est en permanence ça. C'est tout le temps d'être sur ce fil-là et de réduire. Avec les années, ce qui s'est passé, enfin, un des enjeux, ça a été de réduire le plus possible les possibilités électroniques de telle manière à travailler uniquement avec le même support dans le temps. C'est-à-dire comme un instrumentiste ou un chanteur, il a cet objet-là, cet organe-là, et à partir de là, il construit en fait tout son travail, sa pensée, etc. Pour moi, ça a été important de rentrer dans ce type de cheminement pour pas être en permanence dans le sentiment ou dans le fantasme de fabriquer quelque chose de, en tout cas pour moi, de nouveau dans l'instant. Donc ça a été le fait de réduire en fait d'une certaine manière et de fabriquer des contraintes. Et ces contraintes ont été, en tout cas par rapport au vinyle, ça a été le fait de figer en fait les matériaux de départ, c'est-à-dire les disques de départ, même si de temps en temps j'en rajoute, mais c'est des sons de studio qui arrivent dedans.
Figé, ça veut dire que tu as une réserve de CD, enfin de vinyle.
De vinyle, j'ai une réserve.
Toujours les mêmes, quoi, depuis 10 ans.
Ouais, depuis 94, pratiquement les mêmes. Ouais. Ça s'est étoffé jusqu'en 99, parce que jusqu'à Zigozy, c'était mon premier album, qui n'a pas été fait. Il n'y a qu'une seule pièce qui a été complètement faite en vinyle, sinon le reste, il y a beaucoup de samples, il y a beaucoup de CD, etc. Mais sinon, c'est les mêmes sources.
Et on voit que tu les malmènes.
Ça fait partie du processus, quoi. L'idée, c'est vraiment de ça, parce qu'il y a eu des périodes où, effectivement, je tournais en rond, je ne savais plus trop quoi faire, c'est le cas de le dire, je ne savais plus du tout quoi faire avec ces matériaux-là. Donc, je suis parti complètement dans l'électronique. Il y avait un déficit aussi au niveau acoustique, donc tout le rapport au CD est venu aussi. Donc, tout ce qui était de la musique, tout ce qui était fabriqué en composition en musique concrète, j'étais assez frustré de ne pas pouvoir les utiliser en concert, de certaine manière. Alors, j'aurais pu les presser en vinyle et jouer avec, mais la démarche ne m'intéressait pas parce que je travaillais déjà complètement en numérique à ce moment-là. Donc, je me suis dit, je vais garder le lien. Donc, ça va être une partie qui va être jouée complètement en CD. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois types de lutherie qui sont là-dedans. D'accord. L'électronique en soi, telle que je l'utilise, alors c'est simple. Enfin, maintenant, ça a évolué, mais c'était trois chaos-pads qui étaient montés en boucle dans une table de mixage et qui se bouclaient elles-mêmes. Et c'est des choses que j'ai beaucoup utilisées en fait avec des formations où en fait la source, la base, c'était les instrumentistes qui étaient en face de moi avec qui je jouais. Ça a été développé beaucoup avec Poir Z à l'époque. Donc il y a toujours un questionnement, que ce soit pour la composition ou par rapport au concert en live. C'est sûr que ce qu'on connaît plus de moi dans le travail, c'est le travail avec les disques, quoi. Mais même au niveau des compositions, sur les pièces sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment, il y en a une là où je travaille vraiment qu'à partir de radio, enfin une seule radio, c'est une radio satellite et une radio avion, parce que c'est complètement cohérent avec la commande qui a été faite sur un trajet entre la ville de Besançon et la ville de la Chaux-de-Fonds. J'ai voulu utiliser en fait ce trajet-là comme si c'était une bande FM. Et que chaque gare correspond à une station, donc un début de pièce. Et c'est une pièce, ça fait partie d'intermède géographique. C'est une commande qui a été faite l'année dernière à un certain nombre d'artistes. Donc il y a toujours un trajet aller et retour. C'est une pièce de 1h50. Et moi, mon travail consiste justement à composer cette pièce-là 1h50. Et on récupère en fait le son sur une application, sur un téléphone portable qui fonctionne en GPS. En fait, c'est une information GPS, donc on n'a jamais le son dans le portable directement. Si on rentre à la gare numéro 1, c'est-à-dire à la gare de Besançon, la pièce commence à la numéro 1, mais si on rentre à la quatrième gare, la pièce commence au numéro 4 et pas écoutable ailleurs, quoi.
Ah ouais.
Voilà.
Ah ouais. Peut-être on peut écouter ouais. un extrait de Zygosis.
Allons-y.
Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres aujourd'hui avec Eric M. Nous venons d'écouter un extrait de Zygosis qui s'intitule Massacre Mélodie et à l'instant Poire Z. Alors donc Poire Z, c'était avec le duo Voicecrack.
Ouais, Andy Gould et Norbert Mosslang et Günther Müller. Müller.
Voilà. Voilà. Mm.
Moi, j'aurais souhaité qu'on parle aussi du corps, parce qu'effectivement, le jeu avec les platines, on avait commencé à parler un peu aussi de la dimension de performance avec FM and Night, mais même en solo, le fait de te voir, c'est, moi, j'ai l'impression presque de la danse, parce qu'il y a une précision dans le placement des gestes, et dans le placement rythmique, et dans le placement même spatial, quoi, enfin, la façon de bouger. Effectivement, à la fois ça se voit, mais en même temps aussi ça s'entend. C'est-à-dire que je pense que dans la musique, cette précision-là, elle a quelque chose effectivement de physique. En tout cas, aussi bien elle renvoie par son intensité, etc., à quelque chose qu'on perçoit avec tout le corps, et aussi bien on perçoit à l'intérieur de la musique l'engagement d'un musicien en chair et en os qui presque paradoxalement, parce qu'encore une fois, le filtre de l'électronique, c'est pas toujours ça, mais dans la musique que tu fais, je trouve qu'il y a beaucoup ça. Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, quelles sont tes intentions? Comment tu perçois ce questionnement?
À l'époque où j'étais guitariste, que je faisais du rock, il y avait quelque chose de déjà de physique Même pendant les répétitions, j'avais besoin de cette énergie-là, mais que j'avais énormément de mal à canaliser. Et quand j'ai commencé à travailler beaucoup plus avec les Walkman à l'époque, avant de faire de la scène, en fait, je travaillais complètement. J'étais assis en permanence. Donc, ouais. C'était l'équivalent de ce que je faisais au studio. Et même avec les platines, je travaillais déjà beaucoup de platines, enfin des tourne-disques. À ce moment-là, c'était des pièces qui étaient entre guillemets écrites, mais en tout cas dans lesquelles il y avait un enchaînement. J'avais pas du tout déconstruit les schémas de rock, en fait. Il y avait toujours une introduction, des couplets, des refrains, etc. Et les disques étaient enchaînés dans un ordre. Donc je fabriquais réellement des pièces avec ça, qu'elles soient bouclées ou non. Et donc il y avait quelque chose qui était extrêmement cérébral, très sérieux sur le plateau. Enfin, il y avait une concentration, qui finissait par m'enfermer et à nuire finalement à un acte créatif. Et j'ai voulu sortir de... L'idée, c'est quand même de sortir le plus possible de ces schémas de pensée actuels. Enfin, c'est remettre ça en question le plus souvent possible. On peut pas le dire, on le fait en permanence, mais il y a un moment donné où ça fait partie du processus, c'est-à-dire de remettre en jeu, remettre en question... l'endroit où on est et par rapport à ses propres acquis. Donc les acquis actuels dont je peux parler dans le rapport à cette musique jouée en live, c'est effectivement le rapport au corps et la précision qu'il y a avec les instruments, que ce soit du vinyle, de l'électronique ou du CD. Encore une fois, c'est vraiment des objets différents qui créent une musique différente et qui a demandé un certain nombre de temps et d'années pour pouvoir être justement dans cette précision-là, qui pour moi est extrêmement importante parce que elle a à voir avec la précision dans ces objets, dans l'instant. C'est qu'à un moment donné, j'étais dans quelque chose qui avait à voir avec, je lisais Krishnamurti. Et je sais pas, j'avais 27 ou 28 ans. Et ce qui a été transmis à travers ces paroles, c'était le fait de ne pas prendre en compte ce qui vient d'être vécu, de ne surtout pas anticiper dans le futur et d'être dans l'instant. Et à travers ça, dans cette période-là, je travaillais avec un danseur buto, qui s'appelait Christoph Schutz, qui est allemand. Ouais. Et on a monté un spectacle ensemble que j'avais écrit qui s'appelle Etera Delph, qu'on avait présenté au Festival d'Ansem à Marseille en 1999. Et il y avait une chose qui était assez fondatrice pour moi, un moteur, c'est que moi je travaillais avec lui, j'étais en train de composer en temps réel la musique que je pouvais fabriquer à ce moment-là, donc reproduire un certain nombre de schémas sur tout ce que j'entendais, tout ce que je venais de faire, j'essaye de le noter, de le reproduire. Et donc j'avais enregistré à un moment donné ces mouvements-là, et le danseur Christophe me disait, mais dans l'endroit de concentration dans lequel je suis, si tu n'entends pas les sons que tu fabriques dans mes propres déplacements, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de faire de l'intérieur. Donc on a inversé les rôles. Il m'a appris un déplacement de base dans le buto, qui n'a pas été évident parce que c'est loin d'être la base. Et ça a mis quand même plus d'une journée. Et le lendemain, quand on est parti dans ce rapport-là, il a tout simplement envoyé la bande que j'avais jouée la veille. Et de là, de l'intérieur, en fait, c'est quelque chose qui m'a complètement ébranlé, parce que j'ai vraiment senti l'action dans ces endroits de concentration qui déchirait complètement une capacité de pouvoir être dans cette concentration-là, c'est-à-dire marcher les yeux révulsés, avec les bras ballants, les genoux légèrement fléchis, et que à chaque angle de pièce, ne pas lever les pieds pour pouvoir tourner, mais garder toujours la plante des pieds au sol. Enfin, ça demandait tout un rapport au souffle, à la concentration. Ça a changé complètement énormément de choses chez moi. Je jouais déjà debout depuis un moment, mais le fait de me lever était vraiment important. Avec lui, il m'a demandé de travailler pieds nus pendant une grande période. Et après, j'ai bossé avec... j'ai pas mal travaillé avec Mathilde Monnier. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que finalement, quand je jouais sur un plateau, la chose qui était la plus importante pour moi, c'était la présence physique des instrumentistes ou des danseurs. Mmh. Avec les danseurs, le rapport a toujours été dans le contexte de ne jamais regarder ce qu'ils font. En tout cas, de manière... Si le regard, il a à voir, d'une certaine manière, comme un filtre et un balisage qui permet de savoir à peu près où ils en sont. Si la pièce est déjà écrite. Mais même dans des improvisations, ce qui m'intéresse au plateau, c'est d'avoir le son des corps et surtout d'avoir cette énergie-là. Et il y a quelques personnes. Alors ça, c'est vraiment des histoires personnelles, mais Tom Cora avait ce truc-là. Il avait quelque chose qui était extrêmement vertical sur le plateau. Il avait une puissance qui était comme ça. Il y a une autre, Nicolas Dick de Kill the Thrill, avec qui j'ai joué pendant quelques temps, avait ça sur le plateau aussi. Natasha Musera a exactement cette forme-là. Donc ça, c'est des
mais toi-même, dans le fait que chaque geste correspond à une nécessité, se traduit pas forcément très directement par quelque chose de musical, parce que justement, il y a les accidents dont tu parlais, le fait que tu puisses pas produire, mais il est incarné pleinement parce qu'il correspond, et uniquement, il n'y a pas de geste décoratif ou inutile, il y a une intention, et c'est ça qui fait la puissance aussi, c'est l'espèce d'économie ultime qui fait résumer tout dans un geste et qui fait éclater le son.
Il y a des choses là-dedans que je ne peux pas expliquer, parce que le fait d'être, même sur les CD, le fait de ne pas savoir ce qui est exactement ce qui va être joué dans la seconde suivante, de ne pas être dans l'anticipation, je pense que la position du corps, enfin la respiration qu'il y a là-dedans et les gestes qui enclenchent ou qui déclenchent ou qui coupent ou qui allument les sons, crée réellement l'instant et la musique. Mmh. Et moi, je peux pas me couper de ça du tout. Si je me coupe de ça, je rentre dans de la composition.
D'accord.
Et c'est comme au même titre qu'on pourra parler d'Austral après, parce que ça fait vraiment partie de ces processus-là. C'est que quand je suis en face d'une image, comme la plupart des musiciens, on commence par accompagner l'image. On ne crée pas une dialectique et du coup un troisième point. Donc j'en reviens à ces histoires d'énergie par rapport à la danse ou par rapport à certains musiciens, où c'est ces éléments-là que je pense avoir intégré dans mon corps directement, et d'être dans cette verticalité-là, de telle manière la verticalité physique, de telle manière à pouvoir envoyer du son dans une horizontalité, c'est-à-dire dans la salle, et qui est toujours en relation. Avant, on parlait de l'église Saint-Méry par rapport au festival Crac.
Oui.
C'est sûr que faire une musique dans une église avec une réverbération de 10 secondes, c'est pas du tout la même chose que dans une pièce qui est extrêmement mate. Et on ne joue pas du tout de la même manière, parce qu'on travaille avec cette acoustique-là. Et du coup, les gestes changent aussi, évidemment. Alors, c'est sûr que la musique électronique, l'instrument électronique en soi, c'est pas un instrument, un instrument entre guillemets. Pour moi, c'est plutôt un dispositif. Pour moi, l'instrument venant de, malgré tout, en étant guitariste, même si une guitare électrique, c'est pas un objet qui vibre réellement, il y a quand même un rapport charnel qui est très différent avec. Et c'est quelque chose vers lequel, pour moi, il y a quelque chose de la physicalité, mais aussi, à certains moments, il y a quelque chose qui a à voir avec l'érotisme, tout simplement, avec le geste musical, le geste, c'est-à-dire sur la machine elle-même, et la façon d'interpréter ces objets-là. Donc, c'est un état de conscience. Moi, je le switch, en général. Je me mets dans ces endroits-là, et j'y vais, quoi.
Très bien. On écoute peut-être Austral, justement, puisqu'on en parlait, et puis comme ça on...
Eric M sur Radio Libertaire dans l'émission Les Oreilles Libres. On vient d'écouter un extrait de Austral.
Alors, donc, il faut dire aussi que donc, ce soir, aux instants chavirés, donc, nous sommes vendredi 25 janvier.
Tout à fait.
Et c'est donc, l'ensemble Laborintus qui joue aux instants chavirés à Montreuil, une salle que nos auditeurs connaissent bien. Donc une composition donc, de Eric M, notre invité, qui s'appelle Austral, dont on vient écouter. Il y a aussi Luc Ferrari au programme et Sylvain Cassap, si j'ai bien lu le site des Instants Chavirés. Donc ça prolonge la discussion qu'on avait avant sur le rapport à l'espace, le rapport à l'image. C'est ça que tu disais, si on a une image en face de soi, on ne joue pas de la même façon. Donc là, c'est une pièce mixte, c'est ça. Il y a des instruments acoustiques, de l'électronique, qui est diffusée, qui n'est pas jouée.
Qui maintenant est fixe, ouais. Elle n'est plus jouée. Ouais.
Voilà, et la vidéo qui est fixe aussi.
Exactement, c'est la partition, la vidéo. Ouais.
Donc c'est très composé, mais c'est composé pour l'ensemble Laborintus. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler là, de ce rapport à l'image, à la vidéo?
Ouais. Historiquement, le rapport avec Laborintus, ça a été en 2005, juste après le décès de Luc Ferrari. Laborintus avait demandé à Luc Ferrari de faire une version instrumentale des Archives sauvées des eaux, une pièce qu'on avait fait, qu'on jouait avec Luc de 2003 à 2005, et qu'il a joué aussi avec Otomo Yoshide, avec initialement avec DJ Olive, avec Martin Tétrault, etc. Et donc ça c'est le contexte dans lequel j'ai pu rencontrer l'ensemble. Et à la suite de ça, ils m'ont demandé de leur composer une pièce. Donc l'idée, c'était de... Ce qui m'intéressait dans ce rapport-là, c'était de... En 2005, je crois que c'était... Ouais, en 2005, j'ai travaillé avec l'ensemble intercontemporain, avec les solistes. Et j'ai rencontré Eric Maria Couturier, où on travaillait ensemble sur une pièce de Xenakis qui s'appelait Kotos. Et dans ces phases de travail, à un moment donné, je lui ai demandé si ça l'intéressait, donc qu'on improvise ensemble, qu'on puisse essayer de développer quelque chose. Et il était assez bloqué, dû à sa formation. C'est que quand il parlait d'improvisation, c'était dans une version qui a à voir plus avec le jazz, donc ouais. Plus à voir avec des thèmes. Ouais. Et, Et donc là, je lui ai dit non, non, on est vraiment dans quelque chose, on est complètement ouvert, même si tu n'as pas la pratique, lance-toi dedans. Donc ça n'a pas été évident au départ. Et en travaillant avec lui, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a fasciné sur le moment. C'est qu'il a fait des cut-up, il a fait un mixage en fait de tout ce qu'il avait en mémoire et de tout son enseignement, enfin, des préoccupations dans lesquelles il était, mais en même temps, il pouvait passer des suites de Bach à du Xenakis, à du Celci, etc. Mais tout ça, comme on peut le mixer avec de vinyle ou de CD, avec une virtuosité qui lui est propre. Eric Maria Couturier est un violoncelliste qui a un timbre absolument incroyable. C'est un instrument. Et quand j'ai entendu cette histoire, enfin, produire ça, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Travaillant avec la musique fixée sur un support magnétique, que ce soit sur du vinyle, du CD, etc. Là, la musique, elle est fixée dans la chair directement, neuronalement. Elle est à cet endroit-là. Donc, avec l'ensemble Laborantus, sans leur parler de cette idée-là, je leur ai demandé initialement de me donner des sons qui avaient à voir avec les scories et les artefacts de leur instrument.
Ah oui, toutes donc on retrouve
toutes les parties. Voilà, toutes les parties fantômes. Donc, on a fait ça à la mise en circuit. Et donc, séparément, ils m'ont tous donné, en fait, en général, tout ce qui n'est pas censé être entendu. Et la suite de ces séquences-là, j'aurais demandé de me donner les choses les plus caricaturales, la clarinette, c'est les slaps, etc. En récupérant tous ces magnétos, ces enregistrements, ces matériaux-là, j'ai posé ça sur CD. Donc, j'ai commencé avec la harpe d'un côté et la percussion de l'autre, et à partir en improvisation avec ces matériaux-là, qui ont été dérochés au préalable. Ce duo est devenu une piste en soi, stéréo. J'ai fait ça avec tous les autres instruments, et au fur et à mesure, c'est un travail complètement empirique. Donc, on passe d'un duo à un quatuor, etc., etc., en accélérant, en travaillant le processus électronique fortement, que ce soit de l'ordre du granulaire, etc., pour arriver à une forme électronique dans lesquelles, qui a été complètement fabriquée avec de l'instrument acoustique au départ, et dans lesquelles il y a des bribes, en fait, la genèse, la matrice de ces instruments-là. Cette matrice-là, je l'ai posée directement sur des images vidéo, qui elles-mêmes ont été traitées. C'était un voyage que j'avais fait au Chili, en Argentine, en 2009. Donc c'est beaucoup. C'était sur la route australe. C'est une route qui traverse en fait tout le sud de l'Argentine, qui s'arrête à un moment donné. Il faut traverser une partie des montagnes pour aller jusqu'à Ushuaia. Et tout ce voyage-là a été dérushé. Et j'ai travaillé avec un logiciel qui s'appelle Processing, avec une banque particulière, c'est-à-dire avec l'équivalent d'un effet, qui s'appelle Tracking. Et Tracking, c'est un logiciel qui a été utilisé, qui est utilisé en général plutôt dans les lieux de surveillance, les douanes, etc. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont fixes dans un espace ne sont pas analysés parce qu'ils sont fixes, comme une fenêtre, une porte. Mais par contre, quand il y a un élément qui se déplace à l'intérieur de ça, il est identifié. Et à travers cette identification, qu'il soit au niveau du faciès, du physique, etc., selon les informations qui sont derrière ou les données, on peut connaître la température du corps, il y a un certain nombre d'éléments. Donc j'ai récupéré ces informations-là. Il y a moyen sur ces logiciels d'enlever l'image originale et de garder en fait simplement les contours de la forme mouvante. Alors soit par un cube qui détermine l'ensemble de l'objet, soit par ses contours au niveau des ombrages. Et donc c'est tout un travail qui a été fait là-dessus. Donc au final, on en arrive à une espèce, au niveau de l'image, à une projection mentale. Il y a quelque chose qui a à voir avec des synapses, avec des voluptes, mais qui sont assez proches de ces schémas-là, parce qu'il y a des formes concrètes qui apparaissent, mais qui en même temps se délitent en laissant une trace grisâtre derrière elles, et c'est des accumulations. J'ai utilisé ce principe-là. Parce que je me suis rendu compte que dans beaucoup de livrets en musique contemporaine, il y avait très peu de rapport avec le sacré. Et que le sacré était... les termes utilisés ont souvent plus à voir avec une notion de voyage ou dans le rapport à l'image ou à la film, en rapport au cinéma. Et qui pour moi est un leurre, parce que malgré tout, on est quand même dans quelque chose qui a à voir avec le symbolique et avec la mystique. Et ce qui... Donc, Ayant utilisé cette musique électronique, la posant par séquence avec un certain type d'image, ce qui m'intéressait, c'était de faire travailler l'ensemble, donc récupérer la matière, l'endroit, Laborintus fête ses 20 ans cette année, donc là on était en 2009, c'était de récupérer en fait toute l'histoire de chacun à travers leur geste instrumental, leur parcours. Il y a des gens qui viennent de la musique classique, d'autres qui viennent du jazz, enfin, etc. Et de récupérer le son, le matériau lui-même de cet ensemble-là. Donc ils sont partis en improvisation sur les parties électroniques et ils ont improvisé sur une image en l'accompagnant. Et le fait qu'ils accompagnent cette image-là en improvisant, eh ben, finalement ils vidaient leur mémoire. La mémoire du collectif et une mémoire individuelle. L'étape suivante, ça a été d'écouter tous ces enregistrements, l'ensemble qui jouait sur cette musique électronique, de faire une sélection des parties qui m'intéressaient et de celles qui ne m'intéressaient pas. Voilà, c'est un travail de tamis, c'est un travail complètement empirique. Et à un moment donné, quand la partie instrumentale me semblait être intéressante, on l'a rejouée dans son ensemble. J'ai enregistré l'ensemble, l'électronique plus la partie instrumentale, que j'ai retraité une deuxième fois, beaucoup plus dans le granulaire par rapport à certains types d'instruments, et que j'ai reposé sur une bande. Donc l'avant-dernière version faisait 30 minutes, et la version finale, celle qu'on va jouer, enfin qu'on joue vendredi soir aux instants, qui fait 20 minutes, c'est la première fois qu'on la joue de cette manière-là, c'est-à-dire dans la version compressée de 20 minutes, mais dans laquelle les musiciens se sont réappropriés leurs gestes d'il y a 3 ans en arrière et replacés dans un espace temporel en relation avec le mix que j'ai pu faire.
Donc avec un certain unisson.
Complètement.
Complètement, d'accord. Mmh. Et alors, bon, ça rejoint la question de la performance aussi, du coup, parce qu'il y a le son des instrumentistes à travers les haut-parleurs, il y a le son des instrumentistes de leurs instruments, puis leur présence, etc. Mmh. Mais il y a quand même une chose qui me frappe là, dans cette démarche-là, c'est que du coup, l'image a été un point de départ, d'une certaine façon, puisqu'il y a... L'autre point de départ, c'est la mémoire et effectivement les instrumentistes, mais ils ont joué en regardant la vidéo. Donc ça veut dire que c'est quand même la vidéo qui a dicté d'une certaine façon, ou qui a influencé, qui a généré leurs gestes aussi. Et ça me marque parce que j'ai l'impression que toi, dans ton histoire, c'est aussi ça. Est-ce que je me trompe quand tu parles des arts visuels, puisque tu as cette pratique-là, je voulais savoir dans quelle mesure ça nourrit aussi, toi, ta pratique musicale.
Dans ce sens-là, l'image, pour moi, est un leurre. C'est quelque chose qui... C'est un leurre dans le sens où, effectivement, cette image est censée déclencher une réaction et un mouvement qui, dans cet ordre-là, a à voir avec l'ordre de la musique. Donc, moi, quand je leur ai montré les vidéos, je leur ai dit, soit vous prenez une zone particulière par instrument, soit vous essayez d'accompagner l'ensemble, tout simplement, dans ce que vous voyez. Donc, c'est des choses qui sont très abstraites. On est assez proche de la peinture, mais en mouvement.
Mais c'est peut-être d'autant plus facile à traduire, puisque précisément, la musique, c'est aussi quelque chose d'abstrait.
Exactement. Mais ce qui était compliqué, là, dans le fait de remonter la pièce, c'est que... maintenant, ils utilisent vraiment la vidéo de manière précise, c'est-à-dire que chaque déclenchement, chaque départ ou chaque terminaison de leur action, séparément ou en groupe, a à voir avec des éléments qui sont dans une image qui est complètement abstraite.
C'est-à-dire que c'est pas une note, ils utilisent la temporalité de la vidéo. Alors.
Exactement. Dans lesquelles la musique l'électronique est complètement fichée. Moi, j'interviens plus. Je dirige de temps en temps quand je sens que ça fonctionne pas, mais ils sont complètement autonomes avec cet endroit-là.
Voilà. D'accord. Et alors toi, donc, dans ton parcours, je voulais quand même poser cette question-là. Est-ce que les arts visuels, est-ce que tu continues à pratiquer? Puisque là, il y a le livre aussi, il faudra qu'on signale. C'est peut-être le dire maintenant, là. C'est une monographie qui sort ces jours-ci aussi, donc, publiée par les presses du Réel, qui est accompagnée par un CD. Et donc qui regroupe ton travail plastique, voilà, depuis d'ailleurs je sais pas quand. Est-ce que tu peux nous parler peut-être à la fois de ce travail plastique et puis du rapport entre le travail plastique et le travail musical, puisque il y a un CD dans le bouquin, ça prouve bien que ça a du sens de lier les deux.
Les deux sont complètement poreux, et c'est-à-dire dans je me nourris autant de ce que je peux fabriquer dans les arts plastiques. Et ça peut autant venir de la musique et inversement. Il y a beaucoup de pièces qui sont, d'une certaine manière, au départ, une représentation physique d'une composition. Et non l'inverse. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a une pièce, par exemple, qui s'appelle Séquelles. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec les variations, avec variations opportunistes, avec corrélation 1.
C'est une espèce de tige là qui...
C'est quelque chose d'assez tentaculaire qui, en fait, traverse des cloisons. Et c'est l'idée, en fait, d'un squat d'un bâtiment, c'est-à-dire de poser une sculpture dans un espace déjà construit, dans lequel on ne voit jamais, en fait, la globalité de la forme. La globalité de la forme passe par la visite de chaque espace. C'est chaque espace a une correspondance à travers des tiges en plastique qui sont très séquentielles, en fait, qui fonctionnent sur la CGT. Donc il y a le code du génome à l'intérieur de ça. Donc c'est des séquences qui sont dans des variations de bleu et de blanc. Et pour pouvoir avoir une idée de la globalité de la pièce, c'est d'avoir un plan de coupe mental, en fait, de l'architecture du bâtiment. Et
c'est comme idée... un plan, en fait, qu'on imaginerait.
Un plan, exactement. Ouais. Donc la pièce en soi n'est jamais donnée. Mmh. Et cette idée de pièce est vraiment venue de Corrélation 1, qui est sortie sur Variation Opportuniste. C'est-à-dire, sur un lecteur CD de DJ, il y a deux possibilités. Soit on le met en mode vinyle, donc on peut en faire du scratch, soit on le laisse en mode CD. Et pour pouvoir caler les disques, ce que le public n'est pas censé entendre, il y a une répétition, il y a une itération, en fait, sur l'endroit où est posé le CD. Ouais. Et cet endroit, en fait, en travaillant les variations, la vitesse plus ou moins rapide, et en se déplaçant à la frame près, donc l'unité de mesure, là, c'est la frame, le fait, d'une certaine manière, de buriner cet endroit-là, Corrélation 1 avait été fabriquée avec une pièce de Rameau. C'est-à-dire que c'est un fragment de Rameau qui fait 5 secondes, qui est une pièce pour clavecin. Okay. Et je me déplace dans ces 5 secondes-là uniquement pour développer une pièce qui fait... Là, c'est une pièce de 10 minutes, mais originellement, elle faisait 20 minutes, qui était pour la danse, qui était pour Mathilde Monnier, en l'occurrence, pour Frères et Sœurs. Et simplement en mettant à la sortie des platines un système d'écho, de délai, le burinage de ce son-là remplit en permanence un espace acoustique et qui crée du coup une harmonie. C'est la musique répétitive telle que Terry Riley a pu le faire, Lamont et Young, etc. Ce qui m'intéressait dans cet endroit-là, c'est de le travailler sur le support lui-même, CD. De ne pas être historiquement par rapport à la bande, la première pièce de Reich qui est bouclée sur ce fameux texte d'un Mad Pressure. Mais, donc là, ce qui m'intéressait, c'était de travailler finalement, de partir d'un son figé. En plus, c'était un MP3 relativement sale. D'un son de clavecin qui est un son en soi qui m'agresse, avec lequel j'ai énormément de mal. Souvent, je vais chercher des choses dans un contre, de telle manière à pouvoir me l'approprier et à rentrer dans ce matériau-là, parce que si je fonctionne que dans des choses qui me sont agréables,
ah oui, tu vas pas avoir envie
je finis de par m'ennuyer avec ça. Bon. Donc il y a souvent ces démarches-là à l'intérieur de ça.
Et alors, comment est-ce que tu passes de la pièce musicale à l'installation spatiale?
Il y a un rapport très différent, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est que quand on compose, les périodes de composition ou les périodes de concert, alors que ce soit pour des pièces acousmatiques, on rejoue des pièces qui sont fixées, mais on les redistribue dans l'espace, donc on fait une projection acoustique. En musique improvisée, le plus souvent, j'essaye d'être au milieu de la salle, pas sur le plateau, mais on est aussi dans une projection acoustique, mais qui a à voir avec l'instant, et dans lequel le public intervient d'une manière assez différente par rapport à une musique qui est fixée. Mm-hmm. Parce que là, il y a quelque chose qui a vraiment à voir finalement avec la musique de danse, c'est que de temps en temps, je fais ça pour des amis dans des soirées, où c'est extrêmement difficile de pouvoir entretenir des corps dansants sur une musique. Déjà, il y a tout le rapport à la... y a tout un rapport anecdotique et un rapport spécifique à des communautés qui ne dansent pas sur ceci ou cela. Il y a une histoire d'âge aussi.
Les renvoie,
exactement.
Leur histoire personnelle.
Donc, c'est toujours dans un rapport, il y a quelque chose d'ethnocentré systématiquement selon le nombre de personnes qui peuvent être dans telle ou telle soirée et de comment entretenir, en fait, finalement, cette pulsion-là. en ralentissant les rythmiques de telle manière à ce que les corps puissent se reposer pour partir sur des choses qui dérapent, enfin qui, d'une certaine manière. Et il y a un lien avec ça sur, en improvisation, j'ai souvent senti ce truc-là, c'est le retour de salle, c'est le rapport et la qualité d'écoute du public qui est en relation aussi avec l'acoustique et l'espace dans lesquels on est. Et alors que la musique, enfin toute la composition en studio, c'est quelque chose qui a à voir avec l'atelier directement, parce qu'on est complètement seul dans ces endroits-là. Mais toute la construction, même si avec les outils numériques, on a les formes d'ondes, de sons qui sont reproduits physiquement, enfin reproduits sur un écran, on est quand même dans une projection, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute. Et donc, on est dans un espace, on rentre dans l'espace dans lequel on est en train de fabriquer. Alors que le travail en atelier par rapport à des objets physiques qui sont en trois dimensions posés, je peux avoir des pièces. L'une des dernières que j'ai pu faire, qui s'appelle Spiccato, qui est la petite sœur de Staccato, qui a été faite en 2003, est restée pendant, pendant 6 ans dans l'atelier avant que j'y trouve un réel sens. Et cet objet, et je passe devant tous les jours, et tant que le sens n'était pas trouvé, il n'y avait aucune raison qu'elle sorte de l'atelier. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de pouvoir me déplacer dans ces espaces-là, et c'est-à-dire dans l'atelier, et d'avoir des pièces qui sont en construction, qui peuvent être faites de manière instinctive, très rapide, mais d'autres qui mettent énormément de temps et de maturité. Et la lecture de ces pièces-là change très rarement de statut, finalement, dans le temps. On peut avoir plusieurs niveaux de lecture, mais ne change pas réellement. À partir du moment où la forme elle est réellement trouvée, en tout cas l'objet, le contenant, et qui me permet de pouvoir en parler, en général, elle ne bouge plus. Quoi.
D'accord.
Voilà. Après, le lien, il y a une pièce où je parlais de Staccato, qui était une commande du Festival d'automne. Non, pas le Festival, c'était le Festival de Flandre, qui avait fait toute une programmation. C'était Yves Poliard qui m'avait commandé ça, qui travaillait avec les Langwire. Donc, il y avait Pierre Berthet qui était invité. Il y avait Alvin Lucier, etc. Et à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec des tubariques et des néons. Surtout avec des tubariques, avec les filaments qu'il y avait à l'intérieur. Et ils m'avaient proposé de faire une pièce. Pour plein de raisons, on n'a pas pu le faire. Et ils m'ont proposé de faire quelque chose avec le vinyle, ce que je ne voulais plus faire. Parce que je voulais sortir vraiment du... C'est une période où je ne travaillais plus du tout avec le disque. Et la pression par rapport au travail de Christian Marclay était beaucoup trop forte. Donc il y avait quelque chose de lequel je voulais me séparer. Ouais. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah, j'allais quand même travailler avec ces éléments, ces 888 vinyles que j'ai fini par casser et enfiler sur un axe que j'ai posé sur un miroir. Et puis quand on a cet objet-là en face, on est dans une reproduction d'une forme d'onde d'une pièce musicale telle qu'on peut l'avoir sur Pro Tools ou sur Logic. Et ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'est que la pièce a été vendue au MUDAM, un musée au Luxembourg. Et le jour où ils l'ont présentée pour la collection permanente, ils ont gardé donc le principe, c'est-à-dire poser la pièce sur un miroir. Jusqu'à présent, cette pièce-là, je ne l'avais jamais mise à côté d'un mur, mais toujours au milieu d'une pièce. Et le fait que là, elle soit près d'un mur et que les régisseurs ont dirigé les lumières contre la pièce en soi... Eh ben, le miroir a fait une projection en fait, de la forme d'onde sur les murs. Et plus il y avait de projecteurs, plus la forme se diffracte. Et donc, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir pour voir si c'est quelque chose qui était cohérent avec la pièce. J'y suis pas allé, ils m'ont envoyé des photos. Je leur ai dit, mais moi, la pièce ne m'appartient absolument pas. Donc, si vous la transformez, et en l'occurrence, là, c'est encore plus juste que par rapport à ce que j'ai fabriqué, la prochaine fois qu'elle sera montée, elle sera présentée comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé la réappropriation de ça, d'autant plus qu'il vient finalement d'un acte qui est simplement, enfin simple entre guillemets technique, et qui transcende la pièce en soi.
Bah, y a la pièce aussi avec les, enfin la pièce avec les pièces de pull, avec les morceaux de pull, où là aussi il y a la même idée que les échantillons d'un sampleur qui viennent se mettre les uns après les autres et qui reconstituent. C'est encore un peu le même...
Ça, c'est Border. Ouais. C'est une pièce qui est fabriquée de 24 puzzles. Alors, il y a des puzzles de 400, de 500, 750 et 1000 pièces. Et ils ont été montés. Et après, ils ont été démontés du premier élément de puzzle en haut à gauche au dernier en bas à droite. Et ils ont été collés dans leur verticalité. Donc, ça fait des espèces de lignes temporelles comme ça qui sont posées sur un châssis. Et organisé dans l'espace de telle manière à ce que quand on prend un certain angle, ça fabrique en fait une espèce d'irisation comme ça, verte,
en perspective,
dans,
quoi,
voilà, ouais, dans l'espace. Et en même temps, on est vraiment dans une compression telle qu'elle peut l'être, une compression d'information sur un disque dur, ah, selon, oui, les densités. D'accord. À l'intérieur. Ouais, ouais. Donc c'est tout un travail sur la... C'est que des toiles de maître qui sont,
ah, oui,
qui ont été mises en puzzle. En puzzle, ouais. Et il y a tout ce travail-là de compression et d'objets. Ouais.
D'accord. Bon, moi, il y a encore une chose sur laquelle je voulais revenir, mais peut-être on écoute un... c'est la dimension de la performance, puisque tu parlais tout à l'heure par rapport à la musique improvisée, de l'importance de faire circuler quelque chose avec le public, ou que ce soit en tant que DJ pour faire danser les gens, ou moi, j'y pensais aussi quand on parlait de FM & Night, puisqu'il y a quelque chose aussi de très performatif, donc quand il casse une brique ou quand il fait son voilà, ses ressorts machin. Ouais. Et ça c'est presque l'opposé de la pratique en atelier, justement, où on laisse mûrir les choses. Donc est-ce qu'on peut parler peut-être de ça? Est-ce que c'est, du coup, est-ce que c'est un prolongement encore pour toi, une ouverture, ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'est...
La performance?
Ouais.
Je pense que j'ai jamais édité de disque solo de mes concerts en solo.
D'accord, parce que ça n'a pas de sens de les...
Pour
de
moi,
les
ça n'en a pas. On me l'a proposé quelques fois, et puis j'ai pour moi, c'est quelque... Déjà, ça ne m'intéresse pas de m'entendre dans ce rapport-là. Je pense que c'est quelque chose qui doit être vécu, et dans une écoute domestique, même en image sur le net, je ne trouve pas ça... Il y a tellement d'éléments qui disparaissent que ça n'a pas réellement de sens. Ouais. Et donc, pour moi, le temps de la scène, c'est vraiment déjà des temps qui sont extrêmement importants, parce que c'est un endroit de vie qui est absolument incroyable. Mm-hmm. Ce que je ne vivais pas du tout pendant un certain nombre d'années, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel plaisir à jouer, à travailler dans ces endroits-là.
Mais moi, c'est bien ce que je ressens aussi, mais et du coup, de quoi on joue? C'est ça la question de la performance, parce que il y a le son qu'on va produire, il y a le geste que tu fais, puisqu'on a parlé de la précision, la nécessité du geste, et puis au-delà de ça, il y a un autre imaginaire qui peut être convoqué dans le duo de FM & Night, c'est évident, mais il y a aussi le fait de voir un musicien, ou alors avec l'ensemble Laborantus, on peut en reparler maintenant, le fait que les musiciens soient présents, qu'ils rejouent à l'unisson de la bande électronique, ça questionne sur ce sens-là d'être présent physiquement en chair et en os, donc là, c'est aussi symboliquement important, donc ça veut dire qu'on joue de ça, je veux dire, dans la performance, il y a toutes ces dimensions-là. C'est pour ça que moi je parlais d'ouverture, c'est peut-être pas le bon mot, mais il faut choisir de quoi on joue. Et voilà, je voulais savoir à quoi tu étais sensible dans ces démarches.
Dans la démarche avec Laborantus, ou par rapport à FMNA, était complètement différente. C'est que, oui, dans Laborantus, on reproduit une forme, on, oui, et on l'adapte à l'endroit et à l'espace dans lequel on est. Avec FM, les outils qu'il utilise, et puis les objets, comme je le disais avant, sont très pauvres en soi, déjà acoustiquement, ouais, ouais. Et après c'est la façon dont il organise cette pauvreté, cet art des pauvres, enfin, la façon dont il travaille avec ça, et l'interaction qu'il peut, voilà, y avoir entre nous deux, ouais. Donc pour moi, j'ai toujours parlé du duo avec FM comme quelque chose qui a à voir plus avec la performance qu'avec un concert de musique improvisée.
Là, c'est relativement évident, quoi.
Ouais, ouais. Ça l'est vraiment, et d'ailleurs, quand je communique là-dessus, que ce soit sur mon site, il fait partie de la performance, du spectacle, et pas du... Et quand je dis spectacle, c'est la version, ouais, française, mais
là
pas,
où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que moi, j'ai l'impression, enfin je prétends, que la musique improvisée relève de la performance, justement par ce que tu viens de dire avant, c'est-à-dire que c'est un concentré de ce que je perçois dans l'instant autour de moi, que ce soit dans le public, dans ma tête, mais qui est lié à une situation précise, à une acoustique, on en parlait tout à l'heure, si c'est dans une église, si c'est dans une salle de concert, ça ne sera pas la même chose. Et donc en ça, moi je trouve que le concert de musique improvisée, c'est une situation de performance particulière, je ne la sépare pas.
La séparation que je faisais entre le projet avec FM et Laborantus, c'est que c'est là que je la faisais. La chose, après, ouais, par rapport aux autres projets, en solo, je suis toujours dans cette énergie-là. C'est une histoire de senti à l'intérieur, de comment on se place sur le plateau. Mm-hmm. C'est évident qu'on a plus à avoir à faire, à mon sens. Enfin, je reviens, ouais, je viens vers toi par rapport à ça. À quelque chose de l'ordre de la performance plutôt que de l'ordre du concert.
D'accord.
parce qu'il y a un engagement qui est assez différent dans le fait de reproduire une forme et le fait de, même si l'improvisation avec le temps, au-delà des ficelles, de ce qui se passe à l'intérieur de ça, il y a toujours à découvrir à l'intérieur. Et dans une lecture dans le temps, il y a je reviens à Michel Denet là parce que c'est un personnage qui est impressionnant à cet endroit-là. C'est l'évolution qu'il a et la proposition musicale qu'il a depuis des années. Si je le quitte 3 ans en arrêt à 3 ans, je le retrouve 3 ans plus tard. Au-delà de ce qui sait faire, qu'on entend, qui sont fixés sur support, sur CD. La dernière fois que je l'ai entendu au Total Meeting à Tours, donc en décembre dernier, il y avait de nouvelles choses qui apparaissaient. Une fois de plus. Et donc, c'est ces évolutions-là qui sont intéressantes dans les parcours des musiciens qui sont dans ces pratiques-là.
À la fois cette évolution-là et à la fois aussi la capacité à creuser dans l'instant, à se servir justement d'une scorie, par exemple, ou d'une bribe, ou d'un dérapage ou de quelque chose pour aller en profondeur dans la musique. Et ça aussi, c'est caractéristique d'une démarche d'improvisation. Et donc, il y a aussi ce rapport-là au fragment qu'on va investir dans toute sa potentialité.
Ouais, il y a
c'est une démarche dont tu parlais avant et qui relève de l'improvisation très fortement.
Il y a quelque chose, je pense qu'un des projets les plus aboutis pour moi à l'heure actuelle, je me suis rendu compte de ça la première fois à la Semaine du Son, l'année dernière, donc en 2012 à Paris, on avait joué ça. Donc j'avais fait un concert avec Frédéric Blondy et un avec Natacha Muslera. Et les 20 premières minutes avec Natacha, pour moi, m'amenaient quelque part, d'une part, dans quelque chose que je n'avais jamais fait, qui était tellement complètement fragmenté, étoilé, qui était quantique d'une certaine manière. Ouais. Et c'est des endroits, c'est des états qu'on a pu retrouver lors des 2-3 derniers concerts qu'on a pu faire. Et c'est-à-dire que de l'intérieur, en tout cas, je n'arrive pas à identifier la forme en soi, la temporalité. Et c'est des retours que j'ai eus de certaines personnes, de certains auditeurs, enfin du public, et du fait qu'il y a une perte, il y a une notion de temps qui disparaît, et le fait de ne pas pouvoir nommer en fait l'objet tel.
C'est
alors que c'est de la voix et de l'électronique, mais c'est le mode de fonctionnement, l'organisation de ces matériaux-là dans le temps, qui font que il y a des rappels de sons qui ont été joués légèrement avant. Il y a une espèce d'anticipation par avance de sons qui vont être joués après. Enfin, c'est assez. Je sais pas du tout comment on en est arrivé à ça. J'arrive pas du tout à le faire avec d'autres personnes.
Ah oui.
Je pense qu'il y a aussi cette fragilité. Enfin, en ce qui concerne Natacha, la fragilité, elle est un peu faible parce qu'elle en voit quand même beaucoup. Mais elle est.
C'est-à-dire, c'est une prise de risque en fait. C'est-à-dire que justement, peut-être, il faut une certaine assurance pour se confronter à ce...
En tout cas, on a réussi, pour nous, de l'intérieur, à développer quelque chose qui nous dépasse un petit peu.
Mais c'est que c'est réussi, alors.
Ouais. Bah, peut-être on va pouvoir se quitter en écoutant en cartouche.
Allons-y.
Ouais, avec plaisir.
Et bah, voilà, merci beaucoup, Eric, d'être venu parmi nous. Et c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci encore.
Merci.
Allez, salut à tous.
Salut, à la semaine prochaine.
Das ist schon die Witze, wo die Blende ist mit der Bier.